France Culture.
Alors qu'au salon du Bourget qui se tient actuellement, la présence de stands israéliens exposant des armes offensives a créé et continue de créer la polémique. Alors que l'Europe est traversée par un consensus sur la nécessité de se réarmer, de dessiner les contours d'une autonomie stratégique, un débat ce soir. Les ventes d'armes sont-elles affaire de morale? Et deux invités pour tenter d'y participer. Tony Fortin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé d'études à l'Observatoire des armements. Face à vous, Renaud Bellet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès, chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Vous travaillez par ailleurs pour un industriel, MBDA, en tant qu'universitaire. MBDA est le leader européen des missiles et systèmes de missiles. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Des armements de guerre défensifs, c'était tout à fait possible. On s'était accordé avec l'ambassade, en tout cas c'est ce que tout le monde pensait. Apparemment, ça n'a pas été le cas pour toutes les entreprises. Un certain nombre des entreprises ont suivi cet accord. Une autre partie n'a pas suivi. On a donc dit que nous considérons qu'étant donné la situation dans la région, les tensions extrêmes, étant donné les choix diplomatiques de la France, le très grand souci à l'égard de Gaza, nous ne pouvions pas ne pas montrer que des armements offensifs soient dans un salon comme cela.
La voix du Premier ministre François Bayrou, et donc on rappelle la présence de stands israéliens qui exposent des armes offensives actuellement au salon du Bourget. On rappelle par ailleurs qu'en juin 2024 à Euronaval et en novembre dernier à Eurosatory, Israël n'était pas présent. Comment est-ce qu'on explique, Renaud Bellet, ce retour israélien, j'allais dire, parmi les vendeurs d'armes en France? Et au-delà, comment est-ce que vous analysez, vous, cette polémique?
Les entreprises israéliennes sont assez présentes en Europe. Elles sont avec des partenariats, par exemple avec l'Allemagne. Donc il y a un ancrage, en fait, dans le marché européen qui est assez fort. Beaucoup moins en France, qui a ses propres fabrications. Elles sont en concurrent des produits israéliens. Mais le salon du Bourget est un des plus grands salons, en fait, de l'aéronautique et du spatial, dont de la défense. Et donc tout le monde va être présent. Et comme il y a eu quelques polémiques, comme vous rappeliez, à Eurosatory et Euronaval, où en fait on avait eu une interdiction à la dernière minute, il y avait eu un accord avec le gouvernement israélien, et donc peut-être qu'on a mal anticipé les choses.
On a mal anticipé les choses, Tony Fortin. C'est vrai que depuis l'automne dernier, la situation à Gaza, c'est le moins qu'on puisse dire, laisse entendre, on n'aurait pas laissé supposer un changement d'avis sur le sujet.
Non, mais c'est certain que ça fait suite aussi de la mobilisation de la société civile qui s'est justement battue pour que ces stands soient fermés au salon du Bourget. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est ce que ça va dépasser l'affichage. Parce que, ok, ces salons sont couverts, mais en fait, il s'agit pas simplement de présence dans les salons d'armement. On entretient une coopération militaire extrêmement importante avec Israël dans un certain nombre de domaines. On va prélever des technologies israéliennes en matière d'intelligence artificielle, en matière de microcontrôleurs, parce que Israël est en avance effectivement en termes de technologies militaires. Et ce qu'on souhaite remettre en cause ce partenariat au moment où des horreurs se produisent à Gaza, ça fait depuis un moment que le problème est posé. Un certain nombre de pays de l'Union européenne ont suspendu un certain nombre de transferts avec Israël. Je pense par exemple à l'Espagne ou aux Pays-Bas. On peut imaginer que c'est une façon pour le gouvernement de ne pas aller sur ce terrain-là et de ne pas interroger justement cette coopération multiforme avec Israël. Alors certes, on vend plus d'armement fini assemblé à Israël depuis les années 70, mais pour autant, on va prélever des innovations israéliennes en matière de drones depuis les années 2000 et en matière de détection infrarouge qui vont notamment servir au secteur de l'automobile dans le domaine civil, par exemple. Or, cette coopération multiforme n'est jamais en débat.
Lorsqu'on écoute, lorsqu'on réécoute, lorsqu'on repense même aux propos de François Bayrou à l'instant, Renaud Bellet, est-ce que vous trouvez légitime que cette coopération militaire entre la France et Israël se poursuive naturellement, quasi naturellement ?
Alors la coopération militaire est très limitée quand même, comme on l'a précisé juste à l'instant. Il n'y a pas vraiment de vraie coopération comme on peut avoir avec les Américains, par exemple dans les systèmes ou les composants, parce que les ampleurs ne sont pas les mêmes. Ensuite, comme on l'a souligné juste à l'instant, il y a aussi des systèmes qui sont utiles en fait pour les forces armées. Donc il y a une certaine... un pragmatisme, je dirais, des forces armées à rechercher des capacités.
Quelles forces armées ? Les forces armées israéliennes ou les forces armées françaises ?
Françaises. Parfois, il est certain qu'on cherche des solutions qui répondent à un problème opérationnel. Donc,
Tony Fortin, vous estimez vous-même que cette coopération est limitée, qu'elle est circonscrite à un champ réduit ?
Alors, effectivement, elle est plus limitée qu'avec l'Espagne et les États-Unis et l'Allemagne. Les États-Unis fournissent une aide militaire massive, mais pour autant, elle est significative. Certes, au niveau des données militaires, on est autour de 20 millions d'euros de prise de commande annuelle avec Israël. Mais quand on regarde d'autres données qui sont les exportations de biens à double usage entre le civil et le militaire, pour 2023, on est à 192 millions d'euros et notamment beaucoup de matériel électronique. Et on sait qu'un certain nombre d'entreprises de type Safran et ST Microélectronique, on l'a détaillé dans notre dernière note qu'on vient de paraître, sont à l'affût des innovations israéliennes en matière militaire pour justement soit les adapter au niveau civil, c'est le cas de ST Microélectronique, des systèmes de détection infrarouge qu'on retrouve dans les drones et les missiles. Effectivement utilisés par l'armée israélienne sont adaptés pour construire la vision par ordinateur des automobiles connectées ou alors pour la maintenance du matériel militaire dans le cas de Safran. Ce qui est effectivement problématique, c'est qu'effectivement on dénonce le rôle d'Israël, mais nous aussi d'une certaine façon, indirectement, on profite de ces technologies expérimentées sur le théâtre de commission de crimes de guerre à Gaza. Et ça, c'est pas du tout dans le débat public à l'heure actuelle. Il n'y a pas de parti politique qui souhaite mettre en place une commission parlementaire d'enquête sur nos relations, effectivement.
Oui, mais c'est quand même pas une relation. C'est pas une relation militaire. C'est plus large que justement que le spectre de la défense. Ici, c'est plutôt des coopérations de composants qui sont du haut. Et donc, la coopération dans les systèmes d'armes français, par exemple, il y a très peu, voire aucun composant israélien. Donc ici, on ne fabrique pas des armes grâce aux Israéliens. Par contre, ils bénéficient de l'effort de guerre pour faire des innovations qui vont servir en civil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de start-up et de fonds d'investissement qui sont en Israël, et beaucoup de start-up israéliennes sont liées au milieu de la défense, bien sûr. Mais on ne peut pas dire qu'on est en partenariat militaire avec Israël parce que l'automobile utilise des technologies qui ont pu être développées dans la défense. C'est très différent que si on achetait, par exemple, on a pu acheter des drones comme les Harfang de EADS, c'était un dérivé, en fait, du Héron israélien. C'est le seul exemple, à ma connaissance, de plateforme majeure qui était lié en coopération, ça s'est pas bien passé. Le problème, c'est le soutien indirect qu'on pourrait apporter à l'État israélien. Ça, c'est une question. Mais en termes de coopération militaire, on a arrêté dans les années 60, puisque Général de Gaulle avait dit qu'on ne soutiendrait plus l'effort militaire israélien.
Alors, la France est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de matériel militaire. Elle vend à peu près à 65 pays ce matériel militaire à travers le monde. Comment est-ce que la France choisit, Tony Fortin, ses clients dans ce domaine ? Est-ce que n'importe quel pays qui en fait de la demande peut acheter du matériel français, ou dans ce domaine, la doctrine est claire, si je puis dire.
Déjà, il faut partir de l'idée que c'est pas un marché libre, le marché de l'armement, c'est un marché contrôlé par l'État, c'est régi, on a tendance à l'oublier, par le principe de prohibition, c'est-à-dire que les industriels ont interdiction de produire et de commerce des armements, de commercer d'armement, à part s'il y a une dérogation de l'État. Donc ils doivent demander une licence au gouvernement pour cela.
Le principe, donc, paradoxalement, c'est la dérogation pour pouvoir vendre.
Voilà, et on a tendance à l'oublier, justement. Et précisément, ça explique aussi pourquoi il y a une forme d'opacité, parce que le gouvernement délivre des licences à un certain nombre d'États, mais ces licences sont pas rendues publiques. Ça reste dans le giron des services du Premier ministre, du Président de la République. Donc, à l'heure actuelle, il est très difficile de savoir, en fait, ce que la France exporte comme type d'armement à tel pays. On a un rapport parlementaire qui paraît chaque année, qui donnent des montants financiers sur les exportations de matériel militaire, mais on n'a pas, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Italie, le détail de ces exportations. Et ça fait de nous vraiment un pays en retard en termes de démocratie sur le sujet. En réalité, ce qu'on souhaite, une réelle démocratie sur le sujet, c'est pas certain. Est-ce qu'on donne les conditions d'un débat éclairé sur le sujet ? Là encore, je suis sceptique.
On va revenir sur la question de la transparence et du rapport démocratique à cette question, mais avant cela, Renaud Bellet, sur la doctrine toujours, comment est-ce que l'État donne une dérogation ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui fait, là encore une fois, qu'il existe ou non une doctrine française en matière de vente d'armes ?
En fait, il faut garder en tête qu'on a un marché qui n'est pas un vrai marché, puisque c'est plutôt des relations entre États. Les États coopèrent. La doctrine française, il y a une doctrine d'ensemble qui est de dire qu'on va travailler avec des pays qui sont des partenaires stratégiques ou des alliés. Et donc l'idée est de pouvoir équiper ces pays-là en priorité parce qu'ils répondent à nos intérêts souverains, qui ne sont pas définis. Donc c'est la difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment corréler les choses. Et donc en fait, l'État organise quand même une analyse assez poussée. Elle n'est pas transparente, mais souvent parce qu'il y a une confidentialiser aussi des informations. Et donc l'État cherche à combiner en fait deux choses, un rapport de coopération militaire avec d'autres pays pour pouvoir porter une vision de la France et a priori sur des critères qui peuvent être multifactoriels. C'est ça la difficulté. Est-ce qu'on est dans une dimension économique, de droits de l'homme, d'intérêt de militaire ? Parfois l'équilibre n'est pas forcément clair. Et donc en fait la France cherche à combiner aussi deux choses, à savoir donc appuyer des pays alliés, mais aussi maintenir l'autonomie stratégique au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être capable d'avoir une industrie qui soit pérenne, qui soit capable de répondre aux besoins de nos armées, et les équipements sont conçus pour nos armées, et ensuite exportés. Mais malheureusement, la commande publique nationale n'est pas suffisante pour faire vivre l'industrie. Et donc là, l'État est un peu tiraillé entre des objectifs plutôt diplomatiques, je dirais, et des objectifs plutôt de politique budgétaire, où souvent, en fait, l'exportation est même incitée par l'État pour pouvoir combler les trous de la commande nationale.
Donc, si je vous suis, les objectifs éthiques, si je puis dire, sont relativement absents ou de rang 3, 4, 5, par exemple, quand on vend des armes à des dictatures qui peuvent être des alliés stratégiques et objectifs, on ne vérifiera pas l'usage effectif de ces armes, Tony Fortin ?
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France est le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde derrière les États-Unis. Donc
on a dépassé la Russie l'an dernier.
Voilà, on fait quand même le choix politique de baser notre diplomatie, notre rapport avec d'autres États sur justement l'appareil militaire, l'outil militaire. Et c'est ça précisément qui est effectivement problématique. Notamment, 40% de nos exportations sont dirigées vers les pays du Moyen-Orient, qui sont à peu près tous en guerre. Je pense par exemple aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite, au Yémen, à l'Égypte, qui réprime sa propre population. On a aussi bien sûr l'Inde, qui est un grand client de l'armement français, qui a été dans une guerre quand même plus ou moins larvée avec le Pakistan. Donc on voit bien qu'on a un rôle par rapport à un certain nombre de conflits qui peuvent être entretenus sur le globe. Or, ce rôle-là, il n'est jamais vraiment mis en débat à l'heure actuelle.
Renaud Bellet, vous souhaitiez réagir ?
Oui, il faut juste pondérer un petit peu le deuxième rang en fait, de la France, parce que c'est un classement où le premier est tellement gros que de toute façon, les autres sont forcément petits.
Par les États-Unis, en l'occurrence.
Les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est à peu près 40-45% du marché mondial de l'armement. La France doit être à 12% sur les chiffres du CIPRI, le SOCOM International Peace Research Institute. Et en fait, quand on regarde les Allemands, les Britanniques, les Italiens sont pas très loin en termes de volume en quelque sorte. On est autour de 10 à 12% du marché pour ces pays. Non, mais le vrai problème qui peut se poser, c'est qu'on a une dépendance par rapport à ces exportations pour notre modèle de base industrielle de défense.
Alors là, il faut expliquer pourquoi. C'est important, effectivement, si les industriels français se contentaient, entre guillemets, de produire pour l'armée française, ce ne serait pas viable pour eux. Ils ne s'y retrouveraient pas économiquement.
En fait, aujourd'hui, les systèmes coûtent assez cher. Le budget n'est pas extensible à l'infini. Le président a dit qu'il fallait porter à 3,5% les dépenses du PIB de dépenses militaires. Mais en fait, on est à 2%.
Et la part du PIB dévolue aux dépenses militaires.
Voilà, 2% du PIB. Et donc, en fait, on a un certain nombre de commandes qui sont réalisables, mais On sait par exemple que sur le programme Rafale, il y avait 5 années où on ne pourrait pas acheter du fait de besoin d'acheter d'autres matériels. Et donc, les ministres de la Défense et des Armées se sont mobilisés pour trouver des commandes, parce que sinon on aurait arrêté la production, on aurait peut-être perdu des compétences, et ça aurait été un problème pour la marine et l'armée de l'air qui n'auraient peut-être pas été capables de pouvoir être rééquipées en cas de besoin. Mais il faut garder en tête quand même que même si on exporte des montants importants, alors il faut ne pas confondre les prises de commandes qui sont souvent impressionnantes et les livraisons, puisqu'en fait les livraisons se font dans le temps. Et donc en fait on est quand même autour de 6 milliards d'euros par an d'exportation, ce qui est important. Après ça dépend le périmètre qu'on peut prendre, mais si on prend le rapport au Parlement, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. En fait, on peut dire que c'est à peu près le tiers du chiffre d'affaires des industries de défense. Donc en fait, les deux tiers, c'est la commande nationale. Et en fait, on a un complément qui est à peu près de 6-7 milliards. Ça dépend un peu quel périmètre on prend. Mais voilà. Et donc en fait, ici, c'est vraiment une tension qui existe entre les différents besoins de la politique étatique, en fait.
Mais est-ce que c'est ça, pardonnez-moi, est-ce que c'est ça qui fait, dans le fond aussi, que l'on est contraint d'exporter d'abord et que, par conséquent, comme il faut bien trouver des débouchés, comme il faut bien trouver des débouchés économiques et militaires, eh bien, la question éthique, la question morale, la question de savoir à qui on vend et de l'usage qui est fait de ces armes est rétrocédée en arrière-plan?
Non, en fait, si on exporte d'abord de l'armement, c'est d'abord pour des raisons politiques. Et effectivement, il y a des raisons soulevées par Renaud Bellet, mais c'est quand même considéré aujourd'hui comme un moyen de pression sur un certain nombre de régimes qui vont nous acheter des, par exemple le cas du régime égyptien qui va nous acheter des avions de chasse Rafale, et nous en retour, eh ben on va se rapprocher du régime égyptien pour effectivement acquérir des contrats économiques stratégiques, par exemple EDF par rapport au barrage de Suez ou Total en Méditerranée. Donc ça va être une voie de pression.
Donc c'est pas idée contre pétrole, c'est armes contre pétrole.
Oui, en tout cas, c'est adossé à des enjeux économiques plus vastes, à l'exploitation aussi de métaux rares, aux accès à certaines zones. Sauf que la contrepartie, et elle est extrêmement grave, c'est que dans le cas effectivement du régime égyptien, on a armé la répression en Égypte en vendant des blindés adaptés au contrôle de la population, des systèmes d'interception des communications, qui ont fait que des dizaines de millions de gens ont été enfermés dans les géoles d'El-Sisi. C'est ça contrepartie. Et effectivement, ça pose la question de l'interdépendance entre nos exportations d'armement et le maintien de notre mode de vie. On le voit par rapport à la Russie, nos relations avec la Russie. Certes, il y a un embargo sur la Russie, mais comme nous l'avons démontré dans une étude, il est régulièrement contourné. Des pièces et des composants français continuent de passer par des pays tiers. Qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qui explique que, selon le groupe d'experts ukrainiens en charge des sanctions, la moitié des sociétés russes militaires ne sont pas encore sanctionnées? C'est du fait de cette interdépendance économique liée à l'importation du gaz et de l'uranium. Donc ça c'est jamais vraiment mis dans le débat, et il le faudrait.
Vous semblez pas tout à fait d'accord, Renaud Bellet, sur cette question de l'interdépendance économique. Si on prend justement l'exemple précis qui vient d'être mis en lumière, comment se fait-il effectivement que plus de la moitié des vendeurs d'armes russes, de ces grandes entreprises russes, ne soient pas sanctionnés ou sous sanctions aujourd'hui?
Alors j'avoue que j'ai arrêté de suivre les sanctions, notamment de l'Union européenne, au 18e paquet, et j'avoue que c'est du mal à voir clairement les choses.
Après, on est surpris que ce soit pas partie du premier paquet, justement.
Mais en fait, moi j'avoue, la stratégie de sanctions est compliquée, parce qu'en fait, on a du mal à évaluer comment on peut proportionner en fait les sanctions par rapport à l'effet recherché. La littérature en économie là-dessus montre que c'est pas évident de pouvoir le faire, et souvent on essaie maintenant de faire du fine-tuning, et c'est pas toujours le plus efficace.
Travail de précision.
Voilà, travail d'orfèvre. On peut imaginer bien sûr des interactions beaucoup plus larges. Le problème, c'est que plus on élargit le spectre et les nombres d'interactions, plus il décide de définir des corrélations et des causalités entre les choses. Moi, je suis plutôt un économiste de défense, donc je pense qu'il y a une certaine cohérence, en tout cas dans la stratégie des États, souvent entre les points d'appui qu'on peut avoir par rapport aux ventes d'armes. Je pense au Qatar, par exemple, à l'époque de Nicolas Sarkozy, où on a installé une base pour être dans la région. et en contrepartie de la vente de matériel. Ça, c'est certain. Il y a une sorte de pacte global. Ensuite, quand
là,
même,
il y a une causalité entre les deux.
Il y a un lien très fort entre les deux. Ensuite, il est assez difficile quand même de dire que l'État n'est pas responsable, parce que il y a quand même des restrictions qui peuvent être mises sur les livraisons de matériel. Notamment, on a souvent, historiquement, la DGA ne livrait que des matériels...
La Direction générale de l'armement.
La Direction générale de l'armement, à l'époque, délégation, ne livrait que des matériels de la génération précédente et pas de la dernière génération, pour s'assurer qu'au cas où, dans un malheur, les armées françaises seraient confrontées à des matériels français, on puisse avoir une certaine supériorité. Donc ici, il y a des dégradations. Notamment, on va peut-être, avoir des systèmes moins performants, refuser, par exemple, des performances. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on est dans une relation entre des États souverains. Une fois qu'on a livré le matériel, même si les États s'engagent à nous donner des garanties qu'on n'utilisera pas les armes contre les civils, qu'on ne réexportera pas les armes, parce que c'est aussi un des problèmes que l'on peut avoir, hein, de retrouver des armes qui ne devraient pas être là où elles sont, eh bien, malheureusement, on a très peu de contrôle. Et même les Américains, qui ont des outils beaucoup plus puissants que la France, font très peu d'enquêtes. Enfin, moi, j'étais surpris de voir que on a moins de 10% des stocks qui devraient être contrôlés par le Pentagone, qui a des moyens disproportionnés par rapport à la France, qui sont contrôlés réellement. Et donc ici, c'est un problème de la nature du matériel de défense, qui est un outil de souveraineté à la base, alors qui peut être détourné de son usage, bien sûr, mais donc ici, on est confronté entre des pairs et on ne peut pas imposer un pair. Il y a un traité sur le commerce des armes, mais qui est juste un traité de coopération entre États. Donc ici, on n'a pas de cadre supranational.
La voix du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il nous parle de son anniversaire, vous allez l'entendre, et de son rapport aux industriels.
Je pense qu'il faut aussi dire les choses. Je suis ministre de tutelle de nos industriels. Je les aime profondément. J'ai d'ailleurs déjeuné avec eux sur le Bourget ce midi. Et ils n'ont pas manqué de me souhaiter mon anniversaire. D'autant plus que je suis un peu leur directeur export. Ma vie quotidienne, globalement, en tout cas la semaine prochaine, intégralement est tournée vers le succès de nos prospects d'armement à l'étranger. Je crois qu'Éric Trappier ne peut pas être mécontent de la manière dont le Rafale se vend singulièrement depuis 2017. Et donc les commandes sont là. Et d'ailleurs, moi j'ai confiance en Dassault. Et le vrai défi pour Dassault, et je sais qu'Éric Trappier va le relever, c'est d'être capable de sortir 5 Rafales par mois des usines. Parce qu'en ce moment, le vrai enjeu c'est ça, avec des clients à l'export, qui nous demande de le réussir.
Éric Trappier, le patron d'Assaut Aviation. Est-ce que, Tony Fortin, cela vous choque, un discours comme celui-ci? Je rappelle que le ministre des Armées s'exprimait il y a quelques jours à l'Assemblée nationale de la sorte, lorsqu'il dit que lui-même se perçoit comme le directeur export des industriels de l'armement.
Mais c'est vrai, parce que ces exportations, elles sont faites en notre nom, et effectivement c'est l'appareil politique qui décide de là où les armes vont. Et c'est parfois, le citoyen se sent...
Donc les ministres sont des commerciaux.
Bah oui, ils le font au nom de l'État français. Alors évidemment, il y a un manque de transparence et un problème de corruption qui est récurrent. Mais il faut quand même sortir de cette logique où effectivement on considère que les fabricants d'armes sont en dehors de la société. On fait aussi des choix politiques collectifs. On fait des choix politiques d'augmenter nos dépenses militaires. Hein. Quand même, de 2017 à 2024, on est passé de 41 à 57 milliards, d'augmenter aussi nos exportations d'armement, parce que vous dites effectivement que nos exportations tournent autour de 6 milliards, mais ça fait quand même depuis 2015 qu'on est davantage autour de 10 milliards et qu'on a retrouvé nos niveaux des années 70, qui étaient très élevés. On était troisième exportateur d'armes au monde dans les années 70, et l'armement qu'on a livré, eh ben, vous savez où il a fini? Il a fini en Irak, en Libye, en Argentine, en Afrique du Sud, contre la population noire à Soweto. Donc, on voit aujourd'hui l'état de l'Irak et de la Libye aujourd'hui. On peut pas dire que ce réarmement leur a réussi. Et d'autre part, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que quand on vend un armement, c'est pas juste un matériel. On vend un système avec toute la formation, on vend aussi des capacités de production à l'État acheteur, parce que l'État qui nous achète de l'armement demande un transfert de tout ou partie de la production sur sur place. Si bien que les pays qui nous ont acheté de l'armement dans les années 70, je pense par exemple à l'Afrique du Sud, au Pakistan, aux Émirats Arabes Unis, se mettent ensuite à fabriquer de l'armement et à mener des guerres. Ça a été le cas des Émirats Arabes Unis au Yémen au début dans les années 2015. Et en 2011, 70% de l'armement émirati était français. Donc on a une responsabilité dans la prolifération des armes, mais aussi la prolifération des conflits dans le monde.
Je reviens un instant, Renaud Bellet, sur le discours du ministre des Armées. J'ai senti, lorsque vous l'écoutiez, qu'il vous choquait également. On a du mal à imaginer qu'un ministre travaille de la sorte pour une autre industrie. On a du mal à imaginer un ministre de la Santé qui ferait le même travail pour les industriels en pharmacie, par exemple.
Alors, l'industrie pharmaceutique n'est plus ce qu'elle était en France, malheureusement. Mais dans le domaine de l'énergie, on a eu quand même cette politique dans les centrales nucléaires à une époque. Mitterrand est allé en Chine dans les années 80 pour vendre des centrales nucléaires avec des transferts de technologie. Mm-hmm. Alors, je reviens sur les transferts de technologie. Je dirais que c'est plutôt un phénomène plus récent, parce qu'en fait, par le passé, on avait des compensations industrielles, mais qui étaient plutôt commerciales. On a eu quelques transferts de compétences, et notamment en Afrique du Sud, qui a été très problématique dans les années 60, puisqu'après l'embargo lié à l'apartheid, ils ont continué à produire. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était quand même des systèmes plutôt mécaniques, assez faciles à dupliquer. Aujourd'hui, la partie logicielle va rendre les choses plus complexes, mais en effet, on a aidé les Brésiliens à développer leur chantier naval, on a aidé les Indiens à le faire également, et Dassault a annoncé il y a quelques temps un partenariat industriel pour une joint venture, une entreprise conjointe, avec un industriel indien pour fabriquer des rafales ou des bouts de rafales sur place. Donc ici, c'est une réalité. La question, le postulat français a toujours été de dire ce qu'on va transférer doit être en décalage par rapport à la compétence qu'on veut maintenir en France, avec l'idée qu'on pourra toujours maintenir une supériorité. Mais il est certain que il y a aussi fondamentalement l'idée en France qu'on a reconstruit une industrie à partir de Guy Mollet, en fait, hein, et ensuite par De Gaulle, une accélération, parce qu'on ne voulait pas être dépendant. Et les Français ont toujours dit qu'ils voulaient accompagner les pays qui avaient été amis à avoir cette autonomie également. Donc c'est une posture qui est très longue et qui n'est pas spécifique.
Je me permets de vous couper, vous êtes d'accord avec cette assertion, Tony Fortin? Les Français ont toujours été d'accord avec cette idée? C'est une question dont les Français se saisissent, une question dont, je veux dire, qui est mise dans le débat public, cette question de l'armement, des choix de pays à qui on pourrait vendre ou non?
Pour se positionner, il faudrait déjà avoir des informations minimales. Et pour l'heure, les informations minimales sur les exportations d'armement, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne, qui ont 20 ans d'avance là-dessus, par exemple au Royaume-Uni, il y a une commission britannique d'enquête, qui est en pleine reconfiguration aujourd'hui, mais qui mène depuis des années, depuis 20 ans, des enquêtes sur les exportations d'armes britanniques. En France, ça vient juste de démarrer cette année. Elle est tout juste en place, la commission. Et puis, elle vient de la mobilisation de la société civile liée à l'utilisation des armements au Yémen. Il a fallu vraiment se battre pour l'avoir, cette commission. C'était très difficile.
Qui détient ces informations en France? Ce sont les industriels qui les captent, qui les gardent, entre guillemets, pour eux, ou l'État a connaissance tout de même de ces ventes et de ces exportations?
L'État, de toute façon, les industriels ne pourraient pas exporter d'armement sans l'accord de l'État. C'est vraiment il y a les moyens de l'État qui sont engagés
sur dans
l'exportation d'armement à travers les attachés de défense, l'armée française qui fait des démonstrations de matériel. C'est bien ce dont il faut se rendre compte. Et effectivement, c'est l'État qui délivre, comme je l'ai dit, des licences qui permettant aux industriels d'exporter à l'étranger. Donc, il a nécessairement connaissance du détail du matériel et des contrats. Sauf que c'est pas rendu public. Les parlementaires ne sont pas informés. Dès qu'ils posent une question au gouvernement, le gouvernement botte en touche et ne divulgue pas les données classées secret défense sur les contrats d'armement. Et même la commission qui vient de se mettre en place n'aura pas accès à ce type de contrat. Elle va devoir auditionner les ministres et en fait, d'une certaine façon, écouter ce qu'ils ont juste envie de lui expliquer. Ils vont pas pouvoir aller beaucoup de là. Ils vont pouvoir enquêter par eux-mêmes, mais ça risque d'être très compliqué si on n'avance pas sur le terrain de l'information et qu'on se réaligne pas par rapport aux autres pays de l'Union européenne. On a vraiment une démocratie à construire.
Renaud Bellet, il faut construire cette démocratie. Votre point de vue précis sur ce sujet.
La question, c'est une question de contrôle et de transparence. Je pense qu'il y a une distinction à faire. On peut comprendre que dans le domaine de la défense, un pays qui achète un matériel n'est pas sur la place publique des données qui correspondent en fait aux performances des matériels fournis. Je pense que si on veut avoir un adversaire potentiel, et on ne voudrait surtout pas qu'il sache ce dont on dispose, puisque justement l'idée c'est aussi de dissuader l'adversaire potentiellement.
Donc là vous avancez entre guillemets le secret défense.
Bah, En fait, je pense que même dans le domaine des affaires, hein, moi, j'aurais bien savoir combien coûte un iPhone à produire pour savoir si le prix est raisonnable. Vous ne le saurez jamais. Jamais Apple ne communique. Donc, il y a aussi une logique qu'il ne faut pas, vraiment penser que la défense est particulière. Par contre.
Bah, pardonnez-moi, mais sur ce point de vue, enfin, c'est d'ailleurs tout le sujet de cette discussion. Est-ce que l'industrie de défense n'est pas plus particulière, ne serait-ce que parce qu'elle va participer à tuer des gens?
Alors, il y a.
Je le dis d'une manière très simple et très naïve.
Moi, je me souviens avoir une discussion avec les gens du PRIO, qui est un institut sur la paix à Oslo, et des gens du CIPRI, qui trouvaient quand même que les rapports annuels des entreprises françaises étaient quand même plus détaillés sur les matériels, les choses comme ça. Après, on n'a pas les contrats, bien sûr, hein, mais que des entreprises allemandes ou même américaines. Donc en fait, il y a des données. La question, c'est quelle est la granularité des données qu'on peut avoir. Le rapport au Parlement que fait la DGA donne des données par matériel et par destination, mais on ne peut pas croiser les deux. Mais on peut comprendre que les pays n'ont pas forcément envie de savoir qu'on leur a donné tel ou tel matériel. Après, je pense que la commission qui s'est mise en place est une bonne évolution. La question, c'est qu'il faut un contrôle des représentants de la nation, mais qui ne veut pas dire forcément publication des données. Parce qu'ici, il faut qu'il y ait un droit de supervision qui suppose quand même que certaines données puissent être présentées, mais pas divulguées pour des raisons que j'évoquais précédemment, aussi parfois pour éviter qu'on révèle l'avance technologique ou pas qu'on peut avoir.
Votre point de vue, Tony Fortin, est-ce qu'il y a un secret industriel, un secret des affaires et de la défense, comme on dit, qu'il faut tout de même préserver ?
En Allemagne et aux Pays-Bas, les parlementaires sont informés sous deux semaines des nouvelles licences d'exportation accordées par le gouvernement. Ils les obtiennent. Bon, est-ce que c'est des pays qui sont qui désarment ?
Est-ce qu'ils publient les licences ?
Mais bien sûr qu'ils les publient. Le Pays-Bas met en ligne toutes ces licences d'exportation militaire, de biens double usage, les notifications de refus, quand le gouvernement exprime un refus d'exporter effectivement tel ou tel type de matériel, c'est indiqué sur un rapport public. Donc cette pratique démocratique, elle existe dans d'autres pays. Mais en France, elles ne sont pas. Enfin, la volonté est complètement défaillante. Et il est temps, enfin, que, tant du côté du gouvernement que des parlementaires, qu'il y ait une réelle mobilisation sur le sujet, pas juste des auditions de ministres, mais un vrai travail de fond qui puisse se poursuivre en dehors des coups de communication, d'une certaine façon. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Quand vous allez dans d'autres pays de l'Union européenne, les parlementaires développent une expertise sur le sujet, sur la question du contrôle. En France, quand vous avez un ministre qui dit qu'on livre plus d'armes à Israël, tout le monde approuve, ou en tout cas un grand nombre de gens ne vont pas aller chercher au-delà, alors que le marché de l'armement aujourd'hui, c'est avant tout celui des pièces et des composants. Il n'y a pas un armement qui est complètement assemblé, il est toujours assemblé par des composants qui viennent de différents pays aujourd'hui. C'est des chaînes de production qui sont mondialisées, et c'est précisément ça qui se pose problème. Dans notre rapport, on montre notamment qu'un certain nombre de sociétés françaises basées en Rhône-Alpes, spécialisées dans la connectiques qui ont des filiales en Inde, et leurs filiales exportent aujourd'hui des connectiques militaires à Israël.
Donc cet exemple est intéressant, parce qu'en fait, on n'exporte pas du matériel militaire. Donc ici, il y a quand même des classifications. Il y a des équipements qui sont des matériels militaires et d'autres qui sont des matériels civils qui peuvent être utilisés dans des matériels militaires. Donc en fait, si on élargit trop le spectre, on ne voit plus vraiment les réalités. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui font des composants civils et qui vont exporter vers peut-être un pays tiers, en plus que là, l'exemple que vous donnez est très parlant. On parle d'une production d'un produit civil dans un pays tiers qu'on peut pas considérer comme une exportation militaire française vers Israël. Je pense que ça pose un problème, ça pose des enjeux, mais ce n'est pas une exportation militaire.
Je voulais aborder, pour terminer, la question du détournement des armes. On sait bien qu'une arme ne suit pas un chemin, j'allais dire, lapidaire, hein, du vendeur au client. Parfois, les armes sont détournées. Est-ce qu'aujourd'hui, la traçabilité générale des armes est effective, efficace et permet de comprendre où une arme traverse, de quelle façon elle traverse le monde, Tony Fortin ?
Je vais réinsister sur un exemple qui est extrêmement parlant. Vous savez, le groupe d'experts ukrainiens en charge des sanctions qui fait un travail de documentation des composants qu'on retrouve dans le matériel russe en Ukraine. Et on retrouve des puces ST Microelectronics, une société spécialisée dans les composants franco-italiennes, dans 33 références d'armes russes. La moitié sont des drones, il y a des avions de chasse, il y a des missiles. Et cette société-là, en fait, a continue à fournir effectivement des composants à des pays tiers qui sont réexportés effectivement à la Russie, à tel point que les importations par la Russie de ces composants ST Microelectronics se montent en 2023 à 114 millions d'euros et son augmentation par rapport à 2022 et 2023.
Mais là, ce que vous pointez, ce sont les effets du détournement, mais la traçabilité, par conséquent, fonctionne relativement bien.
Alors, la traçabilité, nous, on dit, le gouvernement dit, et les sociétés disent qu'elle est incapable de tracer les choses. Nous, on est capable de le faire à partir de bases de données douanières. Donc, on s'adresse aux entreprises en leur disant, regardez telle société tierce qui commerce votre merde, continue ses exportations vers Israël. On l'a fait auprès de l'entreprise Safran, et puis Safran nous a dit, qu'elle pouvait effectivement entreprendre des mesures légales contre les intermédiaires. Sauf qu'on les attend toujours, ces mesures légales. Qu'attend Safran ? Qu'attend ST Microelectronics pour agir ? C'est une vraie question.
Renaud Bellet, sur la question de la traçabilité, en quelques mots.
En fait, dès qu'on parle de matériel militaire, de toute façon, il y a une vraie traçabilité, puisque là, on a des composants civils, en fait, qui sont juste détournés. La question, ici, c'est la question de la non-différenciation des composants. Parce qu'en fait, on a des équipements militaires qui dépendent de plus en plus de composants civils, ce qui rend les choses de plus en plus compliquées à tracer. Non, on peut voir des flux, bien sûr, mais on ne peut pas suivre forcément un composant.
On va acheter une machine à laver quelque part, par exemple.
En Arménie, par exemple, il y a des cimetières de machines à laver. Et donc ici, malheureusement, si on a une économie ouverte...
Il est réutilisé pour fabriquer des armes.
Voilà. On peut détourner des produits, et d'ailleurs on l'a vu, les drones DJI chinois ont été utilisés et détournés également. Donc ici, malheureusement, ce n'est plus du contrôle de l'armement, parce que justement, c'est tellement large que c'est impossible de le faire. Après, dès qu'on a des technologies militaires, il y a un très grand suivi au niveau du Premier ministre, on fait un suivi des technologies sensibles et des technologies militaires pour justement surveiller, et même, on pourra travailler sur ces questions-là il y a quelques années, sur des sujets, par exemple, pour les armes chimiques, on avait vu un très, très grand suivi, par exemple. Mais malheureusement, le spectre à couvrir est tellement large qu'on va se concentrer sur ce qui pose, entre guillemets, le plus de problèmes. Et malheureusement, aujourd'hui, le niveau technologique dans le monde civil est tellement proche de la défense que ça devient très difficile à gérer.
Merci beaucoup à tous les deux. Tony Fortin, je rappelle que vous êtes chargé d'études à l'Observatoire des armements. Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la défense de la Fondation Jean Jaurès, chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Vous travaillez par ailleurs pour un industriel MBDA en tant qu'universitaire. MBDA, le leader européen des missiles et systèmes de missiles. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.
Merci Quentin.